section que les guérir d'avant, on a vu la parole, c'est insaisible. La position de Marie-Léon, la position de Marie-Léon, qui est commandée par quelque chose qui est bien avant la vie. Considérer que le langage doit être considéré pour lui-même et non pas en référence à celui qui pense. La question, et c'est la question actuelle sur la question du langage. Alors ça a forcément sa répercussion sur la vie de l'exégète et sur le problème de la grammaire. C'est ça que vous devez avec vous, vous comprenez. Le moment du déraillement, c'est souvent en cadre, en fait, c'est une question de somme, on apprend toujours, il y a très bon dos, mais c'est vrai, c'est très bon dos, qui a joué ce rôle, le père. Il y a même génie, n'est-ce pas, il y a même génie, parce que vraiment, Vigneault, la clinique. Elle saisit l'acuité. Et elle saisit l'acuité en abstrayant. Abstraction. Puisqu'on saisit l'acuité à partir d'un sujet existant. À partir de Pierre. À partir de Pierre, je saisis telle qualité. J'abstraie. Pierre intelligent. À partir d'un sujet existant, d'une réalité existante, d'une réalité existante, mais donc plutôt réalité existante. À partir d'une réalité existante, je saisis sa qualité. Et je le saisis d'une façon abstraite, parce que toute l'individualité tombe. Je saisis blanc. Blanc, c'est déjà abstrait. Et blanc est attribuable. Donc blanc est saisi selon sa qualité, selon son logos. Son intelligibilité, je saisis ça. Donc, ça, c'est la prévention. Et le jugement, lui, implique le nom et le verbe. Alors, c'est le passage de l'attribut au nom ou au verbe. L'attribut, c'est l'appréhension, c'est un mode universel. Le nom est toujours pris de façon concrète. Et non abstraite, c'est Pierre. Et le verbe est attribué à Pierre, le verbe être, par exemple, Pierre est, Pierre existe, Pierre travaille, ainsi de suite. Donc, l'appréhension est saisie à partir du jugement comme quelque chose de particulier qui me fait comprendre la signification. C'est le problème de la signification. Une signification universelle. Une signification générique. Une signification spécifique. Une signification propre. Une signification accidentelle. C'est l'ordre de la signification. Il y a ce mode universel. Tout ça relève de l'appréhension. Tandis qu'au contraire, le jugement, qui se donne dans l'énonciation « Pierre est intelligent »,« Pierre existe », le jugement d'existence. Le jugement d'existence, c'est le jugement le plus simple qui soit. Ceci est. Il y a le nom et le verbe. Vous voyez que l'attribut blanc, n'est ni le nom ni le verbe. Évident que blanc n'est ni le verbe ni le nom. Alors, vous avez donc trois aspects tout à fait fondamentaux de votre vie intellectuelle. Vous avez l'attribut universel blanc, la qualité, le n'importe quoi, tout ce que vous avez pu abstraire, champ aussi. C'est or, ça peut être quelque chose qui est tout à fait universel, c'est pas nécessairement un accident. Ça peut être le genre, animal, ça peut être spécifique, homme, ça peut être le propre, intelligent, ça peut être accidentel, blanc. Vous avez donc toutes les modalités de l'universel et de ce qui est attribué. Ceci, c'est l'appréhension qui saisit ça. Et le jugement, lui, dépasse le niveau de l'appréhension pour saisir le nom et le verbe. Dans l'énonciation. Dans l'énonciation, je saisis le nom et le verbe. Le nom, Pierre, le verbe est. Marche. Marche, existe, peu importe. Pierre, le nom. Alors, c'est là la très grosse difficulté. Normalement, le jugement d'existence est premier. Et le jugement d'existence présuppose des appréhensions. L'appréhension est comme quelque chose d'élémentaire. À l'égard du jugement. C'est quelque chose d'élémentaire. En ce sens que dans tout jugement, il y a nécessairement une appréhension. Le jugement ne peut pas être premier au sens absolu dans l'ordre de l'analyse, dans l'ordre de la réduction, tandis que l'appréhension, elle, est sainte. C'est pour ça qu'elle est élémentaire. Je ne peux pas aller au-delà, c'est quelque chose d'absolument simple dans la signification. Tandis que le jugement est compliqué, est complexe. Et le jugement est complexe parce qu'il peut être affirmatif, il peut être négatif. Il y a des jugements affirmatifs et des jugements négatifs. Donc, qui montrent tout de suite que le jugement n'est pas simple. Si je réfléchis au point de vue critique sur ma vie intellectuelle, le jugement ne peut pas être quelque chose de premier. Et le jugement n'est jamais quelque chose de premier. Le jugement présuppose tout le temps quelque chose d'antérieur. Mais ce quelque chose d'antérieur n'existe pas sans jugement. C'est ça qui est très délicat. Ça existe, mais à l'intérieur d'un jugement, et non pas extrinsèque. Extrinsèque un jugement. C'est à l'intérieur du jugement que je saisis cet aspect élémentaire de l'appréhension. Et l'appréhension, c'est l'opération première qui me permet de saisir la signification des choses. Vous voyez ? Existentiellement, le jugement est toujours premier, parce que l'appréhension n'existe jamais seule. On ne peut pas avoir une appréhension seule, vous avez toujours une appréhension à partir du jugement. C'est donc à partir du jugement que je dévoile l'appréhension. Et je crois que l'appréhension est nécessairement la présence du jugement. Mais vous voyez bien que c'est deux opérations différentes. Parce que le jugement n'est pas la synthèse des appréhensions. Je peux mettre or, je peux mettre blanc. Je peux mettre or, je peux mettre exister. Le jugement n'est pas la synthèse des appréhensions. Le jugement forme une synthèse tout à fait différente entre le non et le verbe. Or, l'attribut, ce que je saisis, concept générique, spécifique. Il est présent dans le nom, il est présent dans le verbe. Mais le nom et le verbe sont au-delà de ce concept. Autrement dit, tout nom présuppose un concept universel qui a sa signification. Tout verbe présuppose un concept universel qui a sa signification. Mais le nom et le verbe ne sont pas l'attribut. Le nom et le verbe ne sont pas l'attribut. Donc, vous avez bien trois aspects qui sont tout à fait élémentaires quand il s'agit de faire une analyse critique de ma vie intellectuelle, il y a le jugement dont j'ai conscience. J'ai conscience de juger. Et l'appréhension, je la saisis à partir du jugement, comme une opération élémentaire. La scolastique décadente a séparé l'appréhension du jugement. Et elle a fait de l'appréhension une opération propre. Alors, on voit très bien, et c'était tout problème de la scolastique, on voit qu'elle a séparé l'appréhension du jugement, c'est-à-dire comment de l'universel puis-je revenir au singulier. La première chose que je saisis, c'est l'universel. Alors, comment puis-je revenir au singulier? D'où la naissance de l'idée antérieure au jugement d'existence. Très bien comment c'est né ces problèmes-là. Parce que si l'appréhension est première, j'ai des idées. Ces idées, est-ce que ça existe, soit existe pas, je sais. J'ai des idées universelles. Si je sépare l'appréhension du jugement, si au contraire, je dis la connaissance commence par le jugement. Et le jugement principal, c'est le jugement d'existence. Je vois donc que le premier problème, c'est ce contact avec le réel. Et quand j'analyse ce contact avec le réel, je dis l'intelligence nécessairement, dans ce contact avec le réel, appréhende certaines déterminations et certaines formes. Mais elle appréhende ces déterminations et ces formes dans un jugement et dans un au-delà du jugement. Donc je ne sépare pas l'appréhension du jugement, je vais le distinguer. Il faut toujours bien comprendre la différence entre la distinction et la séparation. Je distingue l'appréhension du jugement, mais je ne sépare pas l'appréhension du jugement, en considérant que, de fait, toute appréhension est toujours donnée dans un jugement. Ça, c'est la position aristotélicienne expliquée par Saint-Thomas. Dans Aristote, ce n'est pas explicite. Saint-Thomas l'explicite en montrant que l'abstraction est au niveau de l'appréhension. Tandis que le jugement n'est pas nécessairement abstrait. Quand je dis ceci existe, il n'y a pas d'abstraction. Mais pour arriver à dire ceci, il y a une abstraction. Parce que ceci, c'est une part. Donc il fallait connaître par là. Pour dire ceci. Dire ceci, pour dire ceci, un livre. Bon, ceci c'est la part, ceci c'est le livre. Ce livre existe. Le ceci contient part, contient livre, contient or, contient des quantités de choses, tout ce que vous voulez. Mais il y a pour dire ceci est. Tout un tas de choses qui sont antécédentes. Le ceci implique donc des déterminations. Des déterminations qui sont saisies selon un mode abstrait, c'est-à-dire selon un mode universel. Universel au niveau générique, spécifique, propre, proximal. J'espère que vous voyez un peu ça. Ça, c'est très important. De revoir constamment, parce que c'est très important de bien saisir la distinction entre appréhension et jugement, et comprendre que je n'ai conscience parfaite que de mes jugements. Je n'ai pas conscience parfaite de mes appréhensions. Mais tout jugement présuppose des appréhensions. Parce que le jugement ne peut pas être l'unique opération, parce que le jugement est complexe. Il implique affirmation et négation. Il implique à l'intérieur même de ce que représente le jugement, il implique le vrai phénomène. Donc il est toujours complexe. S'il est complexe, il n'est pas premier. Il faut que je découvre quelque chose qui est plus simple. Et le plus simple, c'est l'appréhension. Ça veut dire que l'appréhension est vraiment l'opération élémentaire de ma vie intellectuelle. Et cette opération implique une abstraction. Et c'est pour ça que tout jugement, même le jugement concret d'existence, implique une abstraction. Mais c'est saisi à l'intérieur du jugement et comme dépassé dans le jugement. Alors c'est ça qui serait très intéressant à voir. Comment du concept de l'appréhension, je passe au nom. T'as des gros gros problèmes, toujours la symbolistique, essayer de comprendre. Le passage de homme à ceci. Le passage de ce qu'Aristote dit dans les prédicaments, la substance seconde à la substance première. Comment ça se fait? Il faut une nouvelle opération d'intelligence qui, au-delà de homme, saisit Pierre. Mais d'une certaine manière, pour au-delà de l'homme saisir Pierre, il fallait saisir d'abord homme à partir de Pierre. Comment ai-je saisi homme? À partir de Pierre, à partir de Jean, à partir de ainsi de suite. À partir de tous les hommes que j'ai rencontrés. Je n'ai jamais rencontré l'homme. Je n'ai jamais rencontré l'homme. L'homme, vous pensez, mais vous avez contact avec tel homme concret. Et le nom abstrait, le terme abstrait homme, c'est-à-dire le concept spécifique d'homme, je l'ai abstrait à partir du contact de beaucoup d'hommes. Et c'est pour ça que, parce que l'homme sort de beaucoup d'individus, à partir du contact avec beaucoup d'individus, c'est que le concept d'homme spécifique que j'ai peut retourner, quand je pense, à cet homme, donc à ceci. Parce que l'universel provient de ceci. S'il ne provient pas du ceci, il ne pourrait pas le tourner. Parce qu'il provient du ceci, il peut être. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours bien affirmer que le jugement de distance est antérieur génétiquement à toute appréhension. C'est pour ça. Il faut connaître une multiplicité d'individus pour pouvoir abstraire hors. C'est ce que je vais dire, c'est le type de l'induction. J'ai donc ces trois aspects. Hopkins, qu'est-ce qu'il fait ? Alors, le problème, ces trois aspects, j'ai donc l'attribut, il est universel. En face de cet attribut universel, nous avons donc le problème de l'attribution, qui se fait selon les quatre grandes modalités. Genre, espèce, propre, action. Et vous pouvez ajouter différences spécifiques. On a les cinq différences. Les cinq niveaux de l'universel. Les cinq niveaux de l'universel. Ils sont assez gros. Genre, différences spécifiques, espèce, propre, action. Et là, c'est le problème de la signification. Avec le problème du nom, j'ai le problème de la supposition. Le nom, c'est la substance première. J'ai le problème de la supposition. Vous voyez, le problème de la supposition, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le pied est capable de recevoir l'attribut intelligent. Pierre est capable de recevoir l'attribution existe. Pierre est capable de recevoir l'attribution marche. Je peux attribuer ça. Et alors, ça c'est le problème. Pierre est capable de recevoir l'attribution. C'est le problème de la supposition. Alors, c'est né, n'oublions pas, que tous ces problèmes sont nés en théologie. C'est le fameux exemple qu'on prend tout le temps. L'antéchrist a existé. Est-ce que je peux dire ça ? Ou l'antéchrist existera. L'antéchrist a une certaine signification et cette signification va impliquer une certaine supposition. Il va être capable de recevoir telle ou telle attribution. Comme il pourra très bien être incapable de recevoir telle ou telle attribution. C'est pour ça que quand on dit antéchrist, on dit celui qui va venir. Bien que c'est peut-être celui qui est déjà venu. Alors est-ce que antéchrist soupponite pour il est déjà venu ? Ou est-ce que antéchrist soupponite simplement pour celui qui vient ? C'est pour vous montrer ce que c'est que le problème de la supposition pour l'antéchrist. Vous pourriez vous poser la question, par exemple, l'homme poisson, est-ce qu'il existe ? Alors, l'homme poisson existe. Soupçonne. Il n'a jamais existé. Il n'existe pas. Donc, l'homme soupçonne, il a sa signification. C'est un mixte que je fais entre poisson et homme. Est-ce que ce mixte existe ou n'existe pas ? C'est en fonction de l'expérience. Je l'ai jamais vu. Le martien existe-t-il ? Alors, le problème de l'existence et le problème du verbe, c'est le problème de la supposition. À la différence du problème de la signification. La signification regarde toujours un attribut. Elle il a sa signification propre, tandis que le problème de la supposition, regarde le problème du sujet. Supposite, il est capable de recevoir telle ou telle chose. C'est un problème qui a été très très développé par tout un gros livre énorme de Pierre Nesfan sur la supposition. C'est des problèmes au moment où la logique était extrêmement en lumière et en fait. Alors, maintenant je passe à autre. Octave, lui, a joué des rôles sur les synthétiques. Octave considère que l'appréhension est la première opération au sens forme, et non pas l'opération élémentaire. C'est la première opération qui existe. Je saisis des idées. Je reçois des idées. J'ai des idées. Le jugement n'est pas antérieur à l'appréhension. L'appréhension est symbolique. Comme si c'était de l'ordre de l'inspiration. L'inspiration est la contamination artistique ou esthétique. Dans l'inspiration, vous avez des idées. Puis ensuite, il s'agit de la réaliser. Tiens, je n'ai jamais pensé à ça. J'ai une idée. Et ensuite, je la réalise. Et quand j'aurai réalisé, je pourrais porter un jugement de valeur. En disant, oh, c'était magnifique. Vous voyez, c'était réalisable. C'était quelque chose d'étonnant. Et quand j'ai simplement l'idée, je suis dans l'ordre du possible. La connaissance scientifique, et la connaissance artistique commence par les possibles. C'est propre, parce que la connaissance scientifique commence par des hypothèses. L'hypothèse, c'est impossible. L'hypothèse peut être réelle. L'hypothèse peut être réelle. Donc, toute connaissance scientifique commence par une hypothèse. Donc, par le possible. Toute connaissance artistique commence par une intuition qui est de l'ordre de l'inspiration. Donc, ça commence par le possible. Alors, c'est là où c'est très délicat, c'est de savoir la qualité de ce possible. Le possible artistique, le possible scientifique n'est pas le même. Quelquefois, vous faites un cocktail possible. Et que dans ce possible, il y a des quantités de choses, et c'est ça qui est le cas, faire la coupe histologique du possible. Si vous voulez connaître parfaitement la pensée de Nietzsche, il faut faire la coupe histologique du possible. Tant que vous n'avez pas fait la coupe histologique du possible, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Parce qu'il emploie divers matériels. C'est ça qui est terrible, hein, c'est que le mot possible, dans l'ordre artistique, dans l'ordre logique, n'est pas le même. Vous avez donc le possible logique, le possible scientifique, le possible artistique. Et le possible métaphysique. Distinguons les divers possibles. Et nous devons les distinguer. Or, le possible n'est compréhensible que par l'acte. C'est l'acte qui me permet de saisir tel possible, parce que le possible est dans la puissance. Et la puissance est compréhensible que par l'acte. Mais le possible scientifique se connaît par lui-même. Le possible artistique se connaît par lui-même. Le possible logique se connaît par lui-même. Il n'y a que le possible métaphysique qui est connu par lui-même. Alors ça, c'est très intéressant. Parce que, très intéressant de faire une petite dissertation sur les possibles. Et d'en prendre des auteurs qui sont, mais le possible en premier lieu. C'est très important, vous voyez. Si je commence ma philosophie en disant que l'appréhension est première, je te fais en part. Je peux donc dire que le possible est premier. Pourquoi? Parce que toute idée est impossible. Toute idée a une signification. Toute idée, tout concept, il y a un concept. Descartes parle de l'idée, mais en cas, parle du concept. Tout concept a sa signification. Et cette signification implique une possibilité. Pour Hocquart, c'est net. Et tout la scolastique va suivre après Hocquart, c'est pour ça que c'est intéressant. Descartes dira la même chose. Qu'est-ce qui est premier sur nos idées? Je vous l'ai déjà dit, je le répète très rapidement pour rappeler. Moi, quand Descartes dit, là, je pense à l'inverse d'Aristote. Aristote dit qu'il y a l'interrogation du être esthétique, je vous l'ai déjà dit, et l'interrogation du type esthétique. Être esthétique, ceci existe-t-il? C'est ça l'interrogation. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça existe? Et une fois que j'ai répondu oui, ça existe, qu'est-ce que c'est? Donc, pour Aristote, Exestie est premier, le diestie est second. Pour Descartes, il le dit expressément. Hocquart ne dit pas ça, parce qu'Hocquart ne veut pas s'opposer à Aristote. Tandis que Descartes veut s'opposer à Aristote. C'est le sang-bonard qui s'oppose à Aristote. Alors c'est intéressant de voir que chez Descartes, il y a juste l'opposition. Descartes dit la première interrogation, c'est le diestie. Ensuite, le exestie. J'ai d'abord une idée, et ensuite je me pose la question, est-ce que cette idée existe? J'ai l'idée de chat. Est-ce que le chat existe? Alors, vous êtes espèce d'imbécile. Si vous avez une idée de chat, c'est parce que vous avez vu le chat. Non, vous n'avez jamais une idée de chat. Dans le programme artistique, j'ai l'idée de l'homme-poisson. C'est un mythe. J'ai une idée en poisson. Des têtes d'hommes et de poisson. Je ne sais pas comment il dit, ça va bien. J'ai une idée d'homme poisson. Je me pose la question, est-ce que ça existe? Vous savez, dans les chefs génétiques aujourd'hui, ils ont l'audace de se demander si tous ces mythes peuvent exister. Et ils font des expériences. C'est tout à fait une hypothèse scientifique. Je pars d'une idée, je dis est-ce que ça peut exister. Il y a l'idée homme-poisson, il y a l'idée le lion avec une tête d'homme, ou la tête du lion avec un pied d'homme, et ainsi de suite, toute une bite qui est possible, imaginable. Alors, est-ce que ça existe? L'idée première et l'application seconde. Alors, c'est très important de voir au point de vue scolastique que c'est Hocquart qui, le premier, sépare l'appréhension du jugement. Il fait cette grande séparation. Donc, le possible est antérieur à ce qui existe. C'est la parenté profonde. Avec tout ce qui va dépendre ensuite. Alors, on va arriver ensuite, seconde opération d'intelligence, le jugement. Comment comprendre le jugement? Pour Hocquart, c'est très facile. Le jugement, c'est nécessairement deux. C'est-à-dire, le possible saisi par l'appréhension. Le topic éliminable, la culpité saisie par l'appréhension, plus une autre. Donc, le jugement, c'est simplement l'addition. soustraction. Ceci est, ceci n'est pas. Donc, ceci est, j'additionne, ceci est, et j'ai une addition. Hein? Vous voyez donc que le jugement n'est pas autre chose que l'extension de l'appréhension. Ce sont des appréhensions successives qui s'ajoutent. Alors, par le fait même, je demeure dans l'ordre du possible. Je ne pars plus le jugement d'existence. Qu'est-ce qu'il va être? Car on se pose la question, qu'est-ce que c'est que le jugement d'existence? Comment arriver à rejoindre le réel? Comment puis-je rejoindre le réel? Je pars d'une idée et puis je rejoins le réel. Est-ce que cette idée existe? Pour pouvoir dire si cette réalité existe, il faut donc le jugement d'existence. Or, si le jugement, c'est tout simplement l'addition d'appréhension, je reste dans l'ordre du possible. Et je n'atteins pas le réel. Comment vais-je atteindre le réel? C'est l'idée, c'est la grande question de Descartes. C'est la grande question que depuis Descartes, on a toujours posé. Depuis Occam. Comment, du possible, pouvons-nous rejoindre le réel? Alors, Occam donne cette solution. Il dit, c'est par mes sensations. Mes sensations me mettent en contact direct avec la réalité existante. Donc, j'ai un jugement qui est au niveau du possible. Ce jugement, si je mets une addition, il est toujours dans l'addition, si je mets une addition en mettant des sensations, je rejoins le réel. Qu'est-ce que c'est que le jugement d'existence? Le jugement d'existence, c'est un jugement complexe. C'est un jugement intellectuel qui implique deux appréhensions, plus la sensation. Ça, le jugement d'existence. Donc, c'est plus du tout un jugement simple et premier. Pour nous, le jugement d'existence, c'est le jugement le plus simple. Et donc, c'est le point de départ à partir duquel mon intelligence commence. Et c'est bien ce que dit ça quand on dit que la question SST est première. Si la question SST est première, ça veut dire que le jugement d'existence, c'est le premier. C'est ce qu'il y a de premier. Si je n'ai pas le jugement d'existence, je ne peux pas philosopher. Je reste dans du possible. Or, on ne fait pas la philosophie du possible. Sauf dans les cas particuliers. Autrement, on ne fait pas la philosophie du possible. On fait la science du possible. Et l'art consiste à faire passer le possible au réel. Ça, c'est le diéluge. C'est le rôle du diéluge. Le rôle du diéluge. Le diéluge, c'est celui qui fait passer le possible dans le réel. Il prend des idées. Alors, je vais passer les idées au réel, c'est Dieu. Tout artiste est Dieu. Tout artiste, il est passé des idées au réel. Il va incarner des idées. Et ces idées, à ce moment-là, se donneront dans l'œuvre, dans la réalité. Il pourra toucher ces idées. Alors, vous comprenez que le jugement d'existence, j'ai en cadre, c'est un jugement synthétique. Puisque c'est la synthèse d'un jugement qui lui-même est synthèse de l'appréhension, plus la sensation. Alors, poussons un tout petit peu. C'est intéressant de voir ça. Qu'est-ce que je saisis du réel? Puisque c'est le possible, plus la sensation. La sensation, qu'est-ce qu'elle saisit du réel? Elle saisit. Sensible. Donc, elle saisit le sensible. C'est-à-dire l'apparence. Ce qui apparaît n'est pas moi. Les qualités sensibles. Parce que je suis libre, les qualités. La réalité dans son être. Je ne la saisis pas. que seule l'intelligence est capable de pénétrer dans la réalité, c'est-à-dire la réalité. La sensation ne saisit que l'apparence. On va saisir autre chose que l'apparence. Oui, on retrouve ce que Kant dira, l'apparence et nous-mêmes, le même que nous. Qu'est-ce que je saisis la réalité, mon idée sur la réalité et ses qualités extérieures. Ce qui me permet de dire que l'homme existe dans tel ordre, sous telle apparence, mais je ne sais pas ce qu'est cette réalité. Ce que je ne peux saisir par les sensations que les qualités sensibles. On va saisir autre chose. Donc, dans mon jugement d'existence, qu'est-ce que je saisis ? Les qualités sensibles plus les possibles, pas plus. Et rien de plus. Tandis que lorsque je parle du jugement d'existence comme point de départ, je dis mon intelligence, en se servant des sens, atteint le réel. Pour cas, l'intelligence n'atteint jamais le réel. L'intelligence atteint uniquement les idées, le possible. Mais l'intelligence saisissant le possible, plus la sensation, me dit « ceci existe ». Et c'est pour ça qu'en cas me dit « le jugement d'existence me permet de dire « cette réalité m'est donnée ». Le bâton, elle m'est donnée. Elle existe. Je ne sais pas ce qu'elle est. Elle est donnée, c'est pas un fait. Et on est devant la première expérience au droit du positivisme. C'est que de fait, je ne connais pas le réel dans son être. Je connais ses qualités et je connais sa qualité. Je ne connais pas le réel. Le réel échappe complètement. Et ça, c'est la condition d'un plan qui dira ça. Maintenant, Octave, comment est le point de départ de Descartes et le point de départ de Kant. Je dirais que le point de départ de Kant. Et les points de départ de Descartes et de Kant. C'est lui qui, dans sa manière de comprendre le jugement d'existence, va nous faire comprendre ces deux aspects. C'est ça qui est intéressant à comprendre. Donc, le jugement d'existence, c'est ça. Octave va ensuite, forcément, puisqu'au fond, l'intelligence ne saisit plus le réel, ce sont les noms. Au niveau des noms. Mon intelligence construit des noms. Et quand mon intelligence construit des noms, le nom remplace la réalité sous-cognite. Exactement comme l'argent, la monnaie, le pouvoir, remplace la valeur des choses sous-cognite. Eh bien, le langage remplace la réalité. C'est très vrai que le langage remplace la réalité. Grâce au langage, il n'y a pas besoin d'apporter dans la poche toutes les réalités de part. Heureusement, je pense qu'il faudrait prévoir exactement tout ce que je vous dis pour voir les réalités, et on les employer successivement les réalités, on fait les trucs. Grâce au langage, on peut s'évader tout ce que. Mais le langage est ordonné à la réalité. Tandis que pour un cas, le langage remplace la réalité. Et c'est ça le problème de la supposition. Et donc je n'ai plus à regarder à partir du langage la réalité, je m'arrête au langage. Et donc c'est vraiment ce qui est fait. Quand je regarde le langage, je m'arrête au poème. Le poème, c'est très vrai que le poème, lui, il a sa valeur pour lui-même, mais pas le langage. Donc il y a une confusion entre le langage et l'œuvre d'art. Parce que l'œuvre d'art, c'est très vrai, une œuvre d'art s'impose par elle-même. Je n'ai pas besoin, pour comprendre une œuvre d'art, de recevoir la confidence de l'artiste qui dit « quand j'ai fait cette œuvre d'art, j'ai voulu représenter un lion ». parle. Et quand l'artiste me dit, je vais vous représenter un lion, c'est très bien, si vous voulez. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Est-ce que votre œuvre a une signification par elle-même? Est-ce qu'elle exprime quelque chose? Et une œuvre exprime quelque chose par elle-même. Je n'ai pas besoin de regarder la pensée d'artiste. Tandis que dans le langage, lui, il ne s'impose pas par lui-même. Du langage et de l'œuvre de la, et de l'ordre de la communication, de l'ultime. Le langage renvoie à la pensée. Autrement, on parle en langue. Vous voyez bien. Alors, on n'a plus besoin de savoir l'intention. C'est très intéressant, regardez ça, c'est très intéressant parce que